Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous. Le 5 décembre, quand la mobilisation contre la réforme des retraites a commencé, 800 000 personnes étaient descendues dans la rue selon la police. 1,5 million, dixit les syndicats. Y aura-t-il davantage de personnes dans la rue aujourd'hui, 13e jour de mobilisation, alors que tous les syndicats appellent à marcher, les syndicats dits contestataires qui demandent le retrait du projet, mais aussi les réformistes comme la CFDT qui refusent l'instauration d'un âge pivot à 64 ans. Alors plus de monde ou pas, premier test, nous allons à Lyon, la manifestation avait lieu ce matin. Reportage France Inter, Mathilde Imberti, très long cortège Mathilde, avec des représentants de la CFDT.
Le ballon orange de la CFDT flotte au-dessus du cortège, plutôt dans la deuxième partie. Jean-Pierre, militant au syndicat, chauffeur de poids lourd dans les travaux publics, est satisfait de la participation.
Ah oui, oui, nous, la base, oui, il y a depuis un moment qu'on le veut. Après, on n'est pas toujours suivi par le national, mais bon, nous, on est là et on continuera à être là. Ah, elle demande le retrait des 64 ans, de revenir à 62 ans, ça suffit, là. Nous, avec nos métiers pénibles, le compresseur, vous connaissez le compresseur pour faire les routes ? Tous les métiers pénibles, on les connaît.
Une variété de métiers sont représentés. Les enseignants font masse, notamment Anne-Sophie de Villefranche.
Professeur des écoles. Et on est là pour une meilleure retraite parce que pour l'instant, c'est évident que sans revalorisation significative, on sera perdant. Donc c'est ce qu'on attend pour l'instant.
Et puis elle n'est pas syndiquée. Shadia, manipulatrice en cardiologie à l'hôpital de Bron. Les travailleurs de la santé sont nombreux dans le cortège lyonnais.
Ah oui, oui, c'est au-delà des retraites. Ouais. Parce qu'on en a marre, parce que les conditions de travail sont compte se dégrader. Puis la retraite, pour avoir une bonne retraite, il faut déjà avoir un bon salaire de base aussi. Donc c'est pour ça qu'on est là.
Le cortège se met tout juste en mouvement. Le périmètre est limité. Le centre-ville de Lyon est interdit aux manifestants. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Des manifestations en cours également à Marseille, à Bordeaux et Rennes. Des défilés ce matin à Châteauroux, Bayonne, Périgueux, Tours, entre autres. D'autres faits de la matinée assez tôt. Les dépôts de bus de Rennes et Saint-Brieuc étaient bloqués. À Paris, le cortège partira de République à 13h30, direction Nation. Les grands leaders syndicaux sont attendus dans le même cortège, mais pas ensemble. Contestataires d'un côté, réformistes de l'autre. Pas de photos de Laurent Berger et Philippe Martinez côte à côte aujourd'hui. Dans les manifestations aujourd'hui, il y aura des cheminots, un tiers de cheminots grévistes ce mardi, les trois quarts des conducteurs de train, des traminots, des enseignants. Là, le taux de grévistes est de 25% selon le ministère, de 50 à 60 pour les syndicats. Il y aura des fonctionnaires et des salariés du privé. On verra dans quelle mesure, mais aussi des hospitaliers, médecins, soignants, internes. Il était prévu de longue date de faire de ce 17 décembre une nouvelle journée de manif pour demander plus de moyens pour l'hôpital. Alors c'est un peu noyé dans la masse, mais un rassemblement avait lieu ce matin devant l'hôpital Lariboisière dans le nord de Paris. Certains en sont restés à ce rassemblement, d'autres vont rejoindre la manif contre la réforme des retraites. C'est le cas d'Oriane, elle est infirmière, elle appartient au collectif Interurgence, elle est pour la convergence des luttes.
Ça nous paraît logique parce que de toute manière ça nous concerne aussi. Nous on fait pas partie d'une catégorie qui est franchement privilégiée là sur le système de retraite actuel et on le sera certainement pas sur la réforme des retraites qui est en train de se prévoir. L'âge pivot de toute manière nous on n'en entendra probablement même pas parler puisque en règle générale à partir de 45-50 ans les collègues sont tellement épuisés que pour la majorité d'entre nous on part en incapacité professionnelle. Donc si c'est pour qu'on termine à 67 ans pour avoir une retraite à taux plein alors que de toute manière déjà à 50 on se posera la question de quitter l'hôpital, pour nous déjà c'est un non-sens.
Sur le mouvement hospitalier, comment vous voyez la suite des événements ?
On verra surtout, le reste du climat social à la rentrée. Il va falloir passer les fêtes. Nous, ce qui est clair, c'est qu'on est toujours aussi mobilisés, on est toujours aussi déterminés. S'il faut qu'on continue à alerter tout l'hiver sur les morts indues dans nos services par défaut de prise en charge, par défaut de moyens d'hospitalisation, on continuera à le faire. On n'a pas forcément envie de fêter nos un an, nous, en tant que collectif Interurgence, mais s'il faut qu'on aille jusque-là, on le fera.
Propos recueillis par Véronique Julia et en région parisienne, à tout le moins tout ce qui relève des hospitalisations non urgentes pourrait être aujourd'hui reporté. Demain après-midi, Édouard Philippe reçoit les syndicats séparément à Matignon, puis ensemble, ça ce sera jeudi. Et la question clé est toujours la même, quel geste en direction de la CFDT ? Laurent Berger fait une nouvelle proposition aujourd'hui, déjà rejetée par le ministre des Comptes Publics, la hausse des cotisations pour équilibrer les finances des régimes de retraite. Ce dont ne veut pas la CFDT, c'est d'un nouvel âge pivot à 64 ans, mesure que la centrale estime injuste. Bonjour Yael Goz.
Bonjour Bruno.
Alors ouvrir ou pas le débat sur l'âge pivot, eh bien ça divise dans la majorité.
Cet âge pivot qui a tout déséquilibré, ils sont nombreux dans la majorité à le regretter. Et pour comprendre le malaise, il faut bien avoir en tête à quel point pour les marcheurs, majoritairement socialistes dans l'ancien monde, à quel point pour eux Laurent Berger est une référence idéologique. C'est même le groupe LAREM qui avait remis la CFDT dans le jeu en l'invitant à l'Assemblée au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Bis répétita à une semaine de Noël. Hier soir, une dizaine de parlementaires en marche, tendance aile gauche, ont partagé un verre avec Laurent Berger dans un bar près de l'Assemblée. Parmi les convives, le député du Vaucluse, Jean-François Cesarini.
La CFDT est quand même l'un des ambassadeurs de ce système-là. Ils veulent un système à points universel, pas celui-là, il y a encore des choses à faire. Donc oui, je pense qu'il faut lui parler. Moi, je n'ai aucun mandat de négociation, mais en tout cas, il comprend qu'on lui parle. Nous, on pense qu'on peut lui être utile, que ça peut peut-être permettre de sortir d'une impasse et pas simplement de regarder passer les balles entre un exécutif et des syndicats qui, apparemment, si j'ai bien compris, n'avaient pas tout à fait pu se comprendre jusque-là, vu qu'il y a tout le monde dans la rue aujourd'hui.
Jean-François Cesarini avec Cécilia Arbona, une diplomatie parallèle dont on se passerait bien à Matignon. Initiative personnelle, insiste la présidence du groupe. Il n'empêche, avant même les retrouvailles demain à Matignon, Laurent Berger est particulièrement choyé. Le groupe Union Centriste au Sénat l'invite à venir demain. Le Modem aussi veut son moment Berger. De quoi mettre encore plus la pression sur Édouard Philippe, sans que l'on sache s'il est prêt ou non à reculer sur l'âge d'équilibre. L'Élysée observe l'échiquier et regarde Matignon manœuvrer. Commentaire minimal ce matin, la volonté de sortir du conflit est totalement partagée par l'ensemble de l'exécutif. Élysée, Matignon, Berger, groupe En Marche, on se parle, on arrondit les angles, mais la forme n'a pas encore trouvé son carré magique.
Et attention aux synonymes, la porte-parole de La République En Marche s'appelle Aurore Berger. Elle dit ce matin qu'il est hors de question de retirer la réforme. Ce n'est pas possible pour la porte-parole. Pour l'instant, l'opinion est du côté des grévistes. Selon un sondage Harris Interactive, 62% des Français soutiennent la grève. Question aussi sur le successeur de Jean-Paul Delevoye, le ou la, qui a démissionné hier. Sera-t-il nommé avant les rencontres avec les syndicats? Selon le journal Le Monde, le secrétariat général du gouvernement était au courant du cumul de rémunération de Jean-Paul Delevoye. Aucun manquement des services du gouvernement, répond Matignon. Et puis au 13e jour de grève, l'inquiétude des petits patrons et commerçants. La baisse du chiffre d'affaires est pire que l'an passé. Allusion au mouvement des Gilets jaunes, en tout cas selon l'Union des entreprises de proximité. D'autres images et faits de la matinée, c'est symbolique pour les touristes et les étrangers. La tour Eiffel est fermée. Quelques coupures d'électricité à Lyon et dans ses environs. Et selon RTE qui gère le réseau, elle serait volontaire et liée au mouvement social. Pas d'hypothèse, mais 50 000 foyers ont également été privés d'électricité la nuit dernière en Gironde. Et puis il y a ce constat de la brigade des sapeurs-pompiers à Paris. Les accidents de deux roues, de trottinettes, vélos, scooters ont augmenté de 40% depuis le début de la grève. 40% par rapport à la même période l'année dernière. Parole de cycliste recueillie par Delphine Evenou à Paris aux abords de la gare du Nord. Il s'appelle Julien. Ce n'est pas un usager régulier. Pas le choix ces derniers jours. Il est à vélo à ses risques et périls.
Il y a un non-respect total du code de la route de la part de plus ou moins tout le monde. Les automobilistes qui stationnent sur les passages piétons, qui bloquent les carrefours. Et puis les vélos aussi, hein. J'en vois beaucoup qui empruntent des sens interdits, qui circulent sur les trottoirs, qui font tout ce qu'ils ne devraient pas faire, y compris moi. Puis il y a tout simplement une densité énorme, c'est-à-dire qu'il y a énormément de vélos, beaucoup plus que d'habitude. On sent que certaines personnes, elles n'ont pas forcément l'habitude aussi de faire ça. Et donc voilà, ça crée un sentiment de danger, parfois accentué par la pluie aussi, parce que la météo n'a pas été clémente ces derniers jours, et avec la pluie, on est obligé de, par exemple, mettre une capuche, ce qui diminue encore la visibilité. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était dangereux, même si personnellement, il ne m'est rien arrivé.
Voilà pour ce témoignage recueilli par Delphine Evenou. L'actualité, c'est aussi une quarantaine de bateaux en cale sèche qui ont pris feu hier soir dans le port de Lestac à Marseille. Piste criminelle privilégiée. C'est également le cas, l'enquête doit le confirmer bien sûr, après une explosion la nuit dernière à la mairie de quartier de Nantes Sud. La porte a volé en éclats. L'actualité internationale maintenant et cette décision très importante du pape François. Un geste de plus pour mettre fin au silence dans les affaires de pédophilie. La levée du secret pontifical. Autrement dit Bruce de Galzin, jusque-là, quand la justice du Vatican traitait d'une affaire, ça ne sortait pas de ses murs. Désormais, ce sera rendu public.
C'est le jour même de son anniversaire que François décide d'abolir le secret pontifical pour les cas d'abus sexuels sur mineurs. Cela veut dire que les magistrats de tous les pays du monde auront désormais accès aux rapports, aux procès et aux décisions de la justice vaticane qui concernent ces crimes de pédophilie. C'est une décision historique, la levée d'un secret papal, mais qui s'inscrit dans un changement d'époque et même au Vatican. François insiste d'ailleurs à nouveau sur l'obligation de dénonciation des supérieurs, des prêtres ou des religieux qui ont commis des abus. Et le pape précise que ceux qui dénoncent, ceux qui ont été victimes et même les témoins n'ont plus aucune obligation de silence à l'égard des faits. Autrement dit, lorsque l'on sait, on ne peut plus se taire. Enfin, autre décision d'importance, jusque-là au Vatican, le crime de pédophilie concernait les abus sur mineurs de moins de 14 ans. Et désormais, ce sera moins de 18 ans. Rome, Bruges de Gelsin, France Inter.
Un dernier mot pour vous rappeler qu'il y a encore une alerte aux inondations dans deux départements, alerte orange en Charente-Maritime et dans les Landes.